Désir de Dieu. L'Avent est un temps du désir, des espoirs qui se font de plus en plus brûlants dans la prière de l'Église et deviennent soupirs et cris. Hâte-toi, Seigneur, ne tarde pas. Souvent, le cœur ne peut suivre la bouche, car les paroles liturgiques sont pure passion et nous oscillons entre volonté nue et sentiment, et ne nous pouvons étancher d'un cœur entier cette montée de la soif impatiente de Dieu. Nous répétons les appels du texte sacré. Déploie ta puissance et viens. Mais il n'est pas rare que nous soyons fatigués, distraits et diminués par des petites usures intérieures ou extérieures. Nos souhaits sentent souvent la chimère et notre faim et soif de sainteté expirent sur nos lèvres et il ne reste plus qu'une vague aspiration à un amour authentique. Quand l'aurons-nous vraiment atteint, cet amour authentique, ce vrai désir de Dieu? Souhaitons-nous vraiment cette venue du Seigneur? Avons-nous encore le courage de désirer? Mais l'Avent est là pour cela, comme le dit la liturgie avec les paroles d'Isaïe, pour raffermir les genoux qui chancellent, pour réveiller notre désir, pour transformer la pauvreté et même la froideur de notre cœur en désir, en un désir irrésistible. L'Avent est là afin que notre désir soit toujours plus vrai et plus fort. Les savants illustres de l'Église, les saints, les docteurs de l'Église ont parlé de trois venues du Seigneur. La première venue a eu lieu à Bethléem. Ce fut la venue du Seigneur dans la pauvreté de notre chair. Il s'est fait homme. La dernière venue du Seigneur, à la fin de l'histoire du monde, sera tout à fait différente. Il apparaîtra, non pas humilié, non pas sous forme d'esclave, comme autrefois, mais dans toute sa gloire et sa majesté, pour clore l'histoire et ouvrir l'éternité. Entre la première et la dernière venue, nous disent les saints, il y a une autre venue, la venue du Seigneur au cœur de l'âme humaine. Si donc nous modelons notre vie entière comme un avant, entre le premier et le dernier avant, alors Jésus naîtra aussi en nous. Saint Paul dit qu'il veut prendre forme en chacun de nous. Ce devenir un autre Christ de chaque croyant, cette venue du Seigneur dans notre âme, cette naissance du Christ en nous, résume toutes les autres fins et buts, de telle sorte que tous les autres fins et buts de notre existence tombent à terre en poussière, tout ce qu'on a désiré et souhaité d'autre disparaît pratiquement si on croit vraiment en cet unum necessarium, en cet unique nécessaire et qu'on s'y prépare. Aucune activité, aucune efficience, aucune entreprise apostolique, aucune œuvre humaine ne comble notre vocation si la sainteté même de Dieu ne nous saisit pas à travers le Christ. C'est le plus important, le plus capital pour ma personne, pour l'Église entière et pour le monde. Cette transformation dans le Christ, unique en chacun de nous, ne peut être remplacée par aucune vertu, aucune réussite. Nous ne devons pas nous leurrer. Le centre de toutes nos pensées, le moteur de tout ce qui nous fait remplir notre devoir, la motivation pour atteindre nos objectifs les plus élevés et les plus modestes, ne peut qu'être cette union de sa propre personne avec la personne du Christ. Cela va jusqu'à ce fameux « sentir avec son sentir » dont parlait saint Paul, de telle sorte que chacun de nous ne pense que ce que pense le Christ, ne veut que ce qu'il veut, ne recherche que ce qu'il recherche, n'aime que ce qu'il aime. « Sanctite in vobis sicum cut in Christo Jesus » Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Ce sentire est souvent traduit par sentir. Qui est maître de ses propres sentiments? La foi, la raison, la volonté n'ont-elles pas beaucoup plus d'importance que le sentiment? Mais le sentiment est si humain, cependant. Quand nous éprouvons quelque chose, c'est pour nous le plus important, le plus vrai. Est-il interdit d'éprouver ce qu'éprouve le Christ? Bien au contraire, c'est un idéal, le plus beau, d'avoir spontanément les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Sans doute la foi est-elle plus importante? Sans doute est-il plus important que nous pensions en chrétiens, que nous voulions en chrétiens? Mais qui nous voudrait que son propre cœur ne batte aussi à l'unisson de celui du Christ? Quand nous considérons les figures des saints, nous voyons que non seulement ils croient d'une foi forte et constante, mais qu'ils pensent aussi vraiment aux chrétiens dans toutes les questions, qu'ils ne veulent de toute leur force et leur pleine volonté que ce que Jésus veut. Nous constatons toujours chez les grands saints que leur cœur aussi bat, palpite, vibre avec le cœur de Jésus-Christ. J'ai la ferme conviction que par les sacrements, par la prière, nous unissons toujours plus notre pensée à la pensée divine, de sorte qu'un jour notre cœur se laissera emporter et nous vivrons cette chose merveilleuse, avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ, de sorte qu'il n'y a plus en nous de scission entre la foi, la pensée et le cœur. Peu à peu, nous devenons un avec lui, si nous n'avons de cesse de communier, de prier. Tout est un autour de la personne de Jésus. Cette fusion de la tête et du cœur, de vie intérieure et de vie extérieure, de travail et de prière, d'amour de Dieu et d'amour du prochain. À ce qu'en disent les saints, cette unité signifie la naissance du Fils de Dieu dans l'âme. Il est en nous. Saint Paul parlait d'un avoir été saisi par Jésus-Christ, par ce Jésus-Christ qui est alors tout en tout. Nous pouvons dire alors aussi avec saint François d'Assise, « Toi, mon Dieu, et mon tout, tu es mon tout. » Quel désir de tout cela commence à poindre en nous? C'est ce désir qui a caractérisé toutes les grandes figures de l'Ancien Testament. Ils attendaient la venue du Seigneur. Ils ne savaient pas exactement où devait se produire cette venue, mais ils la désiraient, la souhaitaient. Ce désir, justement, les prophètes de l'Ancien Testament l'ont suscité dans le peuple de Dieu, l'ont sans cesse attisé. Le très sage Salomon a atteint la sagesse parce qu'il la désirait, comme c'est écrit dans la Sainte Écriture, « Parce que tu as demandé cela. Voici ce que je fais, ce que tu as dit. » C'était déjà une sorte de présence de Dieu dans l'homme. La sagesse d'en haut est devenue la sagesse de l'homme. L'un des plus grands prophètes, Daniel, avait des désirs ardents et de grandes aspirations. C'est pourquoi Dieu lui accorda clairvoyance et intelligence dans ses entreprises. Le roi David écrit dans ses psaumes « Comme languit une biche après l'eau vive, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. » Ou bien à un autre endroit « Mon âme est une terre assoiffée de toi. » Et le Christ vint et étancha cette soif. Mais en même temps, le Christ, d'après ses propres paroles, a apporté un feu sur la terre et n'a rien voulu d'autre sinon que ce feu se répande sur la terre. En outre, le Christ s'est écrié sur le mont des Béatitudes « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice !» Et tout le temps qu'il a passé en ce monde n'était que désir de cette dernière scène dans laquelle il s'est donné aux hommes jusqu'à la fin du monde. J'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et pour finir, il a dit de nouveau sur la croix, « J'ai soif », et il expira. Il n'y a pas d'imitation du Christ, pas de sainteté sans participer de cette soif, car l'amour qui a tout rédimé doit être un amour de toute notre intelligence, de tout notre cœur, de toutes nos forces. Qui possède un tel amour? Le grand docteur de l'Église, Thomas d'Aquin, nous expliquera quelque chose que je répète souvent pour ma consolation et celle de ceux qui m'écoutent. En ce monde, et quant aux biens terrestres, il y a un fossé entre le désir et la possession. Je peux avoir le désir violent de quelque chose de matériel, mais il y a entre ce désir et la possession un profond fossé. Par contre, pour les choses spirituelles, celui qui les veut, qui les désire vraiment, a déjà commencé à les posséder. Si réellement je désire aimer Dieu, j'ai déjà commencé à aimer Dieu, de sorte que ce seul et unique désir d'aimer est la preuve que déjà on l'aime, parce que Dieu est tel qu'il est écrit dans l'âme psaume. Pour le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève, dit le Seigneur. À celui qu'on méprise, je porte secours. Ce faisant, nous trouvons la paix et aussi une inquiétude éternelle. Nous aimons dans la mesure où nous désirons aimer. C'est pourquoi Sainte Thérèse d'Avila nous met en garde de ne pas diminuer, rétrécir, émousser les désirs. De la même façon, Sainte Catherine de Sienne nous exhorte « Ouvre la bouche ardente du saint désir ». Saint José Maria nous disait toujours que nous devions être des personnes de grand désir, comme lui-même le fut depuis son enfance, lorsque, encore enfant, il chantait sans cesse sur une mélodie inventée les paroles de Jésus-Christ. « Je suis venu apporter le feu sur la terre, comme je voudrais que déjà il fût allumé. » Sa vie durant, il n'a cessé de dire « Seigneur, que je vois clairement ». Cela veut dire non seulement que je reconnaisse ta volonté, mais que je te vois personnellement. Il le cherchait partout, en toutes choses. Le désir l'étreignait de le voir dans toutes les situations, dans toutes les personnes. La prière est justement ce désir, prier sans cesse. C'est justement désirer sans cesse. Tant que nous désirons, nous prions. Dès que le désir meurt, meurt aussi la prière dans la gorge. Saint Augustin dit dans un sermon célèbre, qui est un commentaire, une interprétation du verset d'un psaume « Ante te omne desiderium meum »« Tout mon désir, Seigneur, est devant toi. » Devant toi et non devant les hommes qui ne peuvent comprendre cela. Si naît ton désir pour lui, alors ton Père te le revaudra, lui qui voit dans le secret. Ton désir est ta prière. Si ce désir brûle sans relâche, alors ta prière aussi est sans relâche, car ce n'est pas en vain que saint Paul a dit « prier sans cesse ». Saint Augustin dit qu'on ne peut pas être toujours à genoux et lever les mains, passer du temps dans l'église. Il y a donc une façon de prier sans relâche, et c'est le désir. Quelle que soit ton activité, si tu désires Dieu, alors tu pries sans cesse. Si tu ne veux cesser de prier, alors ne cesse pas de désirer. L'Avent est là pour réveiller ses désirs, éradiquer notre découragement, susciter à nouveau des espérances, ranimer notre ardent désir de Dieu, raffermir les genoux qui vacillent. L'Avent sera alors bien vécu dans la mesure où nous revivifions ce désir d'accomplir la volonté de Dieu, de vibrer à l'unisson du cœur du Christ. Ou, pour mieux dire, l'Avent est un temps pour cultiver un seul désir, que le Christ naisse en moi, que je sois un avec lui. Et tout le reste tombera de ma tête et de mes mains. Alors je serai détaché des personnes, choses et circonstances, alors je posséderai la vraie pauvreté du cœur. Peut-être vivrai-je alors une certaine solitude, et ma prière ne sera presque qu'un cri dans la nuit. Mais c'est dans la nuit, le froid, la solitude que le Christ est venu dans le monde. Si seulement nous cultivons ce désir, nous l'obtiendrons. Alors, quand l'enfant naîtra, la grande joie sera là, et lui continuera en moi et à travers moi son œuvre de rédemption du monde. C'est pourquoi tous les désirs du temps de l'Avent sont résumés dans cette seule et unique phrase, en ce cri de la liturgie « Viens, Seigneur, ne tarde plus ». Si nous avons la chance de posséder le Christ au cœur de notre cœur, alors nous répéterons aussi les paroles des disciples d'Emmaüs. « Reste avec nous car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme ». Il est compréhensible qu'en ce temps d'attente et de désir, nous pensions constamment à Marie. Elle aussi était dans l'attente. L'attitude de Marie n'était que celle-ci. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et cette parole s'est faite chair en moi.